Et même si vous êtes arrivé avec un cœur brisé, vous n'avez pas beaucoup de feu qui reste là, je crois que le feu est ranimé un peu déjà, n'est-ce pas? Après avoir vu les personnes guéries et avoir ce bon temps de louange, entendre les bons témoignages des jeunes, Dieu est à l'œuvre. Mais on va dire ceci, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je serai jamais plus pareil. Et je serai changé et transformé de gloire en gloire en l'image de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc encore, merci et d'être venu ce matin. Je suis content. Si vous êtes ici pour la première fois, on voulait juste que vous sachiez que d'habitude, on ne prend pas autant de temps pour des annonces, etc. Mais c'était une journée spéciale aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager un message d'encouragement. On a parlé ce matin des cœurs brisés, etc. Et moi, je sais que si vous n'avez pas vécu cela, vous n'êtes peut-être pas un être humain, hein? Mais tout le monde a vécu des moments difficiles. On connaît tous des personnes qui ont eu des moments difficiles, mais j'ai un message de victoire, d'espérance et un message vraiment qui va nous encourager à regarder celui qui tourne le gouvernail, et on va voir cela ici aujourd'hui dans la parole de Dieu, en Néhémie chapitre 1. Si vous voulez regarder avec moi, aujourd'hui on commence, non pas encore, les anges de la rénovation. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu l'émission Les anges de la rénovation? Hein? Est-ce que vous aimez ça? C'est le fun de regarder ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission Les anges de la rénovation, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de personnes qui vont trouver les familles qui sont dans le besoin. Soit ils ont des problèmes financiers, ou peut-être il y a une famille dont le père est décédé, ou il y avait un problème, une tragédie en quelque part, la famille n'est pas en mesure d'entretenir leur maison, ou ils ont besoin de plus d'espace, etc., etc. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que cette équipe va arriver sur place. Et souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une vieille maison, ils vont raser la maison complètement et construire une maison complètement neuve. C'est pas pire, hein, comme idée. Et vous devrez voir, hein, qu'est-ce qui arrive. Le monsieur qui est là sur la photo, c'est Ty Pennington, si on peut aller là maintenant. Ty, il arrive toujours avec son affaire et la maison est cachée en arrière d'un autobus souvent quand les personnes arrivent pour voir la nouvelle maison. Il dit, OK, bouge, move that bus, fais bouger cet autobus. Et puis l'autobus part et la famille est là et ils voient une maison de rêve devant eux. Plus grosse qu'ils auraient jamais pu imaginer. C'est tout meublé, c'est tout peinturé, le terrassement est fait, et souvent ils vont même donner comme les chèques de 100 000 ou 200 000 $ pour payer l'électricité pour tant d'années et tout. Donc ils peuvent avoir tout ce qu'il faut pour vivre aisément. C'est quand même pas pire, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir ça? Hein? Comme exemple, on va voir l'autre photo, la prochaine. Comme ici, on voit les personnes en train de travailler, toutes les personnes dans les chemises bleues. Ça, c'est une des maisons qu'ils ont construites. Une belle maison, n'est-ce pas? On ne parle pas d'un petit, une petite cabane quelque part. Hein? Et le monde vient de partout pour regarder, pour voir avec étonnement qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces familles. Donc, je pense qu'on a peut-être une dernière image de cela. Donc, voilà. Une belle maison, une maison de rêve, construite vraiment à leur goût, parce qu'ils vont parler avec eux et découvrir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils ont toujours voulu. Merveilleux, l'équipe arrive. C'est un peu qu'est-ce qui va arriver pour nous avec l'équipe de Syracuse, n'est-ce pas? C'est un peu qu'est-ce qui s'est passé déjà avec nous quand l'équipe de la Californie est arrivée, hein? Laisse-moi vous dire une chose. Quand les Californiens sont arrivés, ils ont passé 7-8 jours de travail. Il y avait juste 13 personnes dans l'équipe. Toute la ville, il y a des gens, les commerces qui en parlent encore aujourd'hui à Drummondville. Il y a déjà quoi, 5 ans de ça, il y a des personnes, quand je les vois, oh, je m'en souviens, et ils parlent avec les autres à propos de cette équipe qui est venue de la Californie pour faire les rénovations ici, parce qu'ils ont travaillé avec joie, avec cœur, et ils ont eu tellement une belle attitude, c'était une expérience merveilleuse. Laisse-moi vous dire, quand quelque chose comme ça arrive, ça attire l'attention de tout le monde. Ceux qui connaissent Jésus, ceux qui ne le connaissent pas encore. Ça va être la même chose quand les gens de Syracuse arrivent. Ça va faire un boom ici. Hein? Je pense qu'ils vont tous arriver dans les chemises rouges. Donc, tout le monde va voir. Mais moi, j'aimerais vraiment être bien représenté aussi. Hein? On a besoin de nos jeunes pour travailler avec eux. Parce que, dans le fond, c'est notre Église. Mais aujourd'hui, on ne parle pas juste de quelque chose de naturel. On parle des anges de la rénovation. Et c'est sûr que ça... Je fais un petit parallèle avec ce qui va arriver dans quelques semaines avec l'équipe de Syracuse, mais je veux faire un parallèle spirituel aussi. Parce que c'est bien beau d'avoir une maison de rêve. Ça, c'est bien beau. Mais une maison est temporaire. Un jour, toutes les maisons qui restent, qui sont ici sur la planète Terre, toutes les maisons, sans exception, vont brûler. Tu prends la maison la plus luxueuse, la plus grosse, la plus belle au monde. Un jour, comme on a vu la semaine passée, l'ère de grâce va terminer et toutes ces choses vont être détruites. Et c'est seulement ceux et celles qui connaissent le Seigneur Jésus qui vont être sauvés, qui vont passer l'éternité au ciel. Et là, laisse-moi vous dire que les habitations au ciel sont tellement mieux que la meilleure maison qu'on peut imaginer ici sur la terre. Est-ce que vous avez hâte de voir la vôtre? Et c'est pas pavé, hein? L'entrée, c'est pas pavé, hein? C'est pas l'asphalte, c'est en or. La rue est en or. Et là, on va marcher sur l'or, c'est quelque chose. Mais là, on parle pas de bâtir ou construire une maison de rêve. Pour les prochaines quelques semaines, on va parler de comment construire une vie de rêve. Parce qu'une vie, la vie, c'est pour toujours. La vie sur la terre, c'est temporaire. Mais la vie avec Dieu, c'est pour éternité. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir notre vie de rêve ici sur la terre qui va continuer au ciel. Savez-vous quoi? La vie éternelle ne commence pas une fois qu'on est rendu au ciel. La vie éternelle commence dès qu'on donne notre vie au Seigneur Jésus. Dès que qu'on confesse Jésus est notre Sauveur, il est notre Seigneur, on reçoit la vie éternelle, on commence. Et bien entendu, on a un trajet, un séjour à faire ici sur la terre, mais un jour, on va partir de la terre, on va être au paradis avec le Seigneur. Est-ce que ça vous tente? Mais qu'est-ce que je veux? Je veux mener une vie ici sur la terre qui va être fructueuse, qui va être saine, qui va être heureuse, joyeuse. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir une vie heureuse, joyeuse, fructueuse ici sur la terre, aussi bien qu'au ciel? Donc, là, pendant cette série, on va parler de cela. Le premier verset qu'on veut voir aujourd'hui, c'est en psaume 127, qui dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Donc, première chose, si vous voulez bâtir une vie de rêve, il faut laisser le Seigneur Jésus bâtir votre vie, parce que si vous essayez de construire votre propre vie, vous allez échouer. Vous allez faire des erreurs. Vous allez gâcher l'affaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà essayé de bâtir leur propre vie et ça n'a pas fonctionné? Hein? Les murs étaient croches, la plomberie ne fonctionnait pas, il y avait des inondations, un problème de courant et tout. Laisse-moi vous dire, si on n'a pas le bon contracteur, on peut avoir un désastre, n'est-ce pas? Mais on a le meilleur architecte, le meilleur contracteur. C'est Jésus qui a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. » Donc, on va parler de comment construire une vie de rêve. Et pour cela, on parle des rénovations, parce qu'il y a beaucoup de nous, la plupart de nous, nous commençons dans la vie, et nous commençons à construire. Et on a des problèmes. Au moment donné, les choses ne fonctionnent plus. Les relations sont brisées. Les mariages vont échouer. On a des problèmes de santé, des problèmes des finances. On a toutes sortes de misères. Est-ce qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, souvent, comme les anges de rénovation, on a besoin de voir Dieu arriver sur la scène de notre vie, arracher la vieille affaire qui était là et reconstruire à neuf quelque chose qui a de l'allure. Et j'ai une bonne nouvelle. Si vous êtes en cœur brisé, si vous avez une vie misérable aujourd'hui, vous avez eu de la misère, de la difficulté, j'ai une bonne nouvelle, les anges de la rénovation arrivent chez vous. Amen. Mais ce n'est pas les hommes, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même, c'est pas Ty Pennington qui arrive, hein? OK, fais bouger l'autobus. C'est Jésus de Nazareth qui arrive. Et qui dit, bon, ça va plus, hein? Là, on va leur donner quelque chose qui a de l'allure. Quelque chose, je vais leur donner une vie de leur rêve. Et c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, ça c'était le premier verset. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, il travaille en vain. Mais savez-vous quoi? On a l'exemple dans l'Ancien Testament d'un homme qui a été, si vous voulez, la version spirituelle de Ty Pennington. Et c'était un homme qui s'appelait Néhémie. Et Néhémie, c'était un homme qui, à l'époque, il travaillait pour le roi. C'était la personne qui portait la coupe du roi, qui vérifiait la nourriture et tout ce que le roi buvait. Pas le roi d'Israël, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le peuple de Dieu ont été pris captifs parce qu'ils ont désobéi à Dieu. L'ennemi est venu détruire le temple de Dieu, détruire les murs de Dieu, les murs de Jérusalem, et ils ont amené tout le peuple de Dieu à l'extérieur, dans un pays étranger. Et là, on a cet homme qui s'appelle Néhémie, qui travaille pour le roi étranger, et qui a une position importante devant le roi. Il a vraiment de l'influence, il a quelque chose, il est bien placé. Et on va voir, parce que lui, Néhémie, comme Ty Pennington, il va recevoir une vision de Dieu pour aller retourner à Jérusalem et rebâtir les murs. Et on va lire ceci, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem, et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. C'est pas une belle image, vous êtes d'accord? C'est le désastre. Et peut-être vous dites aujourd'hui, ah, ça décrit bien ma vie. Tout est jeté à terre, je suis brûlé moi-même, ça marche plus dans mon affaire. Mais là, Néhémie va recevoir ce message et son cœur est touché. Et on va voir tantôt qu'est-ce qu'il va faire. Il va amener toute une équipe, à peu près 40 000 personnes qu'il va amener avec lui pour retourner à Jérusalem, pour rebâtir, reconstruire les murs. Et on ne parle pas d'un petit mur. Muré de 5 pieds. On parle de quelque chose d'énorme et large. Il y avait des maisons dans le mur. Grand. C'était pas un petit mur autour d'une maison, c'était un mur autour de toute la ville. Une grosse affaire. Mais Néhémie va prendre ce projet à cœur et il va amener une équipe et il va construire le mur. Et regardons qu'est-ce qui arrive, le prochain verset. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Ça a pris 52 jours. Tout le monde dit 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre était accomplie par la volonté de notre Dieu. Laisse-moi vous dire que quand vous commencez à reconstruire votre vie selon Dieu, votre vie de rêve, que tout le monde qui vous entoure va être étonné, mais émerveillé, en dire, waouh, ça doit être Dieu. Seulement Dieu peut faire ça dans une vie. Est-ce que ça vous tente d'avoir une vie comme ça? Alléluia. On va en parler. 52 jours. Hein, ça me fait penser, hein, un petit groupe de personnes, hein, bon, je peux pas dire quel genre de groupe de personnes qui étaient dans un restaurant autour d'une table, mais ils avaient une réputation pour être un peu nono, mais ils étaient autour d'une table. Et puis, il y avait un monsieur qui entre, il voit toutes ces personnes autour de la table en train de chanter 52 jours, 52 jours, 52 jours, et puis il y a d'autres personnes qui se rejoignent à eux, et finalement il y a une belle petite groupe, et pendant longtemps ils chantaient 52 jours, ils se donnent 5, ils se tapent dans la main, waouh, on est victorieux, 52 jours. Et le monsieur, finalement, la curiosité, c'est trop pour lui, il s'approche de la table, il faut qu'il voit, qu'est-ce qu'il regarde, c'est quoi 52 jours, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc il regarde, et sur la table, il y a une petite casse-tête de Mickey Mouse. Il dit, ah oui, mais c'est quoi l'affaire? Ils ont dit, mais regarde ça! La boîte dit 2 à 3 ans, mais nous l'avons fait dans 52 jours! Ça, c'est juste pour vous réveiller, hein? Moi, je ne suis pas là pour vous promettre que votre vie va être transformée de A à Z dans 52 jours. Mais je suis là pour vous assurer que si vous mettez la parole de Dieu en pratique, et si vous avez la foi, et si vous êtes persévérant, juste un petit pub pour mercredi soir. Mercredi passé, on parlait de la foi qui obtient les promesses. On va continuer encore mercredi cette semaine. Donc, venez pour cela. Mais la Bible dit que la foi, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Je vous assure, je vous garantis que si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous allez voir votre vie transformée. Mais pour cela, qu'est-ce qu'on veut voir aujourd'hui? C'est 2 points vraiment importants. Premièrement, tu as besoin d'une vision pour bâtir une vie de rêve. Si tu n'as pas de vision, on a vu la belle maison qu'ils ont construite tantôt. Je vous assure que les maçons, les charpentiers, les plombiers, les électriciens ne sont pas arrivés sur le champ avec leurs propres idées, sans avoir un plan. Ils n'ont pas juste commencé à construire quelque chose. On va patenter ici, on va travailler là, on va bricoler cela. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça prend? C'est un plan. Ça prend une vision. Vous êtes d'accord? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez une vision pour votre vie? Si vous n'avez pas encore une vision, est-ce que la vision que vous avez pour votre vie est la bonne vision? C'est la deuxième question. Est-ce que vous avez la vision de Dieu pour votre vie? Parce que regardons, parce que ça prend pas juste une vision, ça prend aussi une autre chose, ça prend aussi une provision pour la réaliser. Oui, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vais construire, mais si les plombiers, les charpentiers, les électriciens arrivent sur le champ avec un rouleau de papier, avec un plan, mais ils n'ont pas de matériaux sur le site, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rêver encore. Oh, ça va être beau, hein, ça va être joli, oh, le toit comme ça, et les fenêtres, oh, ça va être super. Mais aussi longtemps qu'ils n'ont pas un plan, une vision et les matériaux, ils peuvent rien construire. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça prend? C'est une vision et une provision. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vision qui vient de Dieu vient toujours avec une provision. Provision. Le mot pro veut dire pour. Donc, la provision, c'est pour l'accomplissement de la vision. Et si vous avez la bonne vision, j'aime beaucoup ce qu'un homme qui s'appelle George Murray l'a dit une fois, et ça, c'était un homme qui avait prenait soin des orphelins. Et par la foi, il recevait tout ce qu'ils avaient besoin pour nourrir des centaines des orphelins par jour. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est que l'œuvre de Dieu, qui est exécutée selon Dieu, ne manquera jamais la provision de Dieu. Et souvent, le problème, c'est que nous sommes en train de construire quelque chose dans notre vie. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la bonne vision. Et on a de la difficulté, on lutte et on veut faire quelque chose, mais ça ne marche pas. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas le bon plan. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de chercher le plan de Dieu. Quand vous trouvez la vision de Dieu pour votre vie, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que, regardons ceci, vision pour ta vie doit être au-delà de ton confort personnel. Si Dieu te donne une vision, si je te demande aujourd'hui, c'est quoi la vision que tu as pour ta vie? Si je te poserais la question à la plupart des Québécois aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Quelqu'un, donne-moi un exemple. C'est quoi la vision que tu as pour ta vie? Qu'est-ce qu'ils vont dire, la plupart des gens? Je veux une grosse maison, un gros char, une jolie femme, je veux prendre tant de vacances par année, je veux avoir tant d'argent dans un rire, je veux être capable de prendre ma retraite jeune et voyager et ta-da-da-da, je. N'est-ce pas? Mais laisse-moi vous dire, la vision que Dieu veut vous donner, c'est beaucoup plus grand, c'est au-delà de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va vous demander à faire va inclure beaucoup de monde. Pas forcément, je ne dis pas que vous allez prêcher aux milliers. Peut-être que vous n'allez jamais prêcher. Probablement, la plupart des gens ici ne vont jamais prêcher en arrière d'un train. Mais ce n'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu vous demande à faire en sachant que ça va toucher des milliers de personnes. Je parle toujours de Moïse a délivré le peuple d'Israël, des millions. Mais qui a fait le panier qui a sauvé la vie de Moïse? Les parents de Moïse. Ils n'ont peut-être jamais su que qu'est-ce qu'ils ont fait en tricotant un panier, que c'était pour le salut d'une nation. Une chance qu'ils ont fait un bon panier. Amen? Et le Seigneur va vous demander à faire des choses que vous dites peut-être, « Oh, mais ça ne change pas grand-chose. » Hé, attention, si vous faites ce que Dieu vous demande à faire, ça va changer grand-chose. Amen. Alors, regardons. La vision pour ta vie doit être au-delà de ton confort. C'était le cas avec Néhémie. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Quand Néhémie a entendu l'état de Jérusalem, il a dit, waouh, les murailles sont tombées, c'est consommé par le feu. Il était touché. Lui, il était bien dans sa place au palais, n'est-ce pas? Néhémie, il avait une belle vie. Je suis celui qui porte la coupe du roi. J'ai une place, j'ai un bon emploi, j'ai de la sécurité financière, tout va bien pour moi. J'ai une position assez dominante et prominente dans la société. Donc, pourquoi est-ce que je me casserai la tête pour la vieille ville de Jérusalem et les personnes qui sont dans la misère? Je vais bien. Mais c'est pas ça. Une vision qui vient de Dieu va toujours au-delà de votre confort personnel. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous devrez voir 2 Corinthiens 5, 15 qui dit qu'on n'est pas là pour vivre pour notre propre plaisir, mais nous vivons pas selon notre propre gré, pas selon notre petite vie égoïste, mais nous vivons pour Dieu. Amen? Regardons. Deuxième chose, la vision pour ta vie doit te pousser à la prière. Si tu as vraiment la vision de Dieu, dès que tu vois qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses, tu vas te pousser à prier. Pourquoi? Parce que tu vas dire, « Ah, c'est plus grand que je pensais. » Donc, il va falloir prier. Et c'est pourquoi je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen? Une autre chose, quand on parle de la vision doit nécessiter l'intervention de Dieu. Si c'est vraiment de Dieu, ça va prendre la main de Dieu pour l'accomplir. Moi, je ne veux pas faire dans la vie ce que je peux faire. Je veux faire dans la vie ce que seulement Dieu peut faire à travers moi. Amen? Combien de vous voulez faire la même chose, hein? Peut-être autre chose, dit, « Oh, mais moi, je ne suis pas capable. » Oui, tu as bien raison, tu n'es pas capable, moi non plus. Je ne suis pas capable, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia! Donc, regardons cela. Néhémie 1, 11. « Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. » Donc, qu'est-ce que tu vois? Néhémie, il est bien dans sa peau. Il a une position. Il a une sécurité. Il vit... Et il passe cette journée dans le palais du pays le plus riche au monde à l'époque. Il était bien, mais il reçoit une vision de Dieu. Il dit, non, ma vie, c'est pas juste rester devant le roi, lui donner sa coupe et lui donner sa nourriture à tous les jours. Il y a quelque chose de plus. Et peut-être vous dites dans votre vie, dans votre cœur aujourd'hui, il y a quelque chose de plus pour moi aussi dans cette vie. Pas juste mettre au, hein, qu'est-ce qu'on dit? Mettre au boulot dodo. On n'a pas de métro ici, mais mettre au boulot dodo, mettre au boulot dodo. La vie est plus que ça. Ça, c'est pas une vie de rêve. Une vie de rêve, on peut faire mettre au boulot dodo avec une vision et ça change tout. Parce que là, j'arrive à l'usine avec un cœur rempli d'une vision pour être une lumière à tous ceux et celles qui m'entourent dans l'usine. Je gagne les sous, mais je gagne pas les sous pas juste pour moi. Oui, je vais avoir mes besoins rencontrés, mais aussi, je gagne la semence pour donner, pour partager avec les autres aussi. Ma vie a de l'allure parce que j'ai une raison d'être ici sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on parle de la nécessité d'avoir une vision et la provision, on va voir cette chose que Néhémie a fait, que nous avons besoin de faire aussi. Juste brièvement, je vous encourage à lire ces passages à la maison, lire tout le livre de Néhémie si vous voulez. Méditez cela, ça va vous aider dans les semaines à venir à mieux saisir les réalités dans les prêches. Donc, première chose, numéro un, prenez la vision à cœur. Une fois que vous recevez, même si c'est juste une petite aperçu, avant-goût de la vision de Dieu pour votre vie, prenez ça à cœur. Prenez ça dans vos tripes. Il faut que la vision brûle dans votre cœur. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai une vision pour ma vie, parce que Dieu m'a donné une vision pour ma vie. Moi, je sais que Dieu m'a envoyé au Québec. Il m'a envoyé pour être pasteur d'une belle église triomphante qui va faire un impact dans la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà. Et ça brûle dans mon cœur. Ça brûle dans mon cœur depuis plus de 17 ans d'avoir un centre de formation où on peut voir les Québécoises formés pour faire un impact dans la francophonie. Amen. Et ces choses commencent à se réaliser, mais ça prend la foi, ça prend la persévérance. Prenez la vision à cœur. Regardons Néhémie 2. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, c'est difficile à prononcer pour moi, mais c'est pas grave, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pas, est-ce pas gentil, le roi dit, ton visage est mauvais, non? Il n'a pas répondu, mais tu n'es pas si beau, hein, non plus, hein? Non, je pense pas qu'il aurait dit ça au roi plus puissant. Hein? Tu n'es pourtant pas malade. Regarde ça. Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de quoi? De cœur. Je suis saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Donc, vous voyez, ça brûlait en lui. Il savait, waouh, je suis là au palais. Mais mon peuple sont détruits et la ville que Dieu vraiment a donnée à mon peuple est détruite, consommée par le feu. Comment puis-je être juste heureux à faire mon petite affaire ici, ma petite vie égoïste? Je ne peux pas être content comme ça. J'ai besoin de faire plus avec ma vie. Prenez la vision dans le cœur. Numéro 2, prendre l'initiative. Prendre l'initiative. C'est pas assez d'avoir une vision. On pourrait. C'est pas. Tout le monde qui a pris une douche a déjà eu un rêve pour leur vie. N'est-ce pas vrai? Est-ce que je suis la seule personne qui reçoit des fois la révélation dans la douche? Waouh, quelle bonne idée! Je sais pas, c'est parce qu'on est détendu, on est relax. C'est comme, waouh, oui, Seigneur, merci, on peut prier. On voit cela. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait une fois sorti de la douche qui compte? Après avoir pris la serviette, après avoir mis les habits, c'est qu'est-ce qu'on fait après la douche qui va faire la différence. C'est pourquoi il faut prendre l'initiative. Vois-tu, Néhémie n'était pas juste touché dans son cœur, il était motivé à agir. Et c'est pourquoi, quand il parlait au roi, il a dit, « Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi un judas vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Imaginez, c'est un homme qui dit, OK, c'est énorme cette tâche. Ça a pris plus de 40 000 personnes pour le faire, mais à l'époque, il ne savait pas que 40 000 personnes étaient prêtes à le faire. Il a juste dit, envoie-moi, je vais rebâtir les murs. Quelle initiative! Quelle audace! Les gens diraient, quelle folie! Mais si tu ne prends jamais l'initiative, tu ne verras jamais les résultats. Amen. Numéro 3, ose demander ce dont tu as besoin. Donc, il savait que, bon, si je vais le faire, je ne peux pas bâtir les murs de Jérusalem juste moi-même. Ça prend des ressources, ça prend des matériaux. Donc, il a osé demander au roi quelque chose. Qu'est-ce qu'il a demandé? Puis, je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. » Soulignez cela, « que j'occuperai. » « Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. » Voyez-vous quelque chose? Néhémie va aller reconstruire les murs. Mais il a besoin des matériaux. Donc, il demande au roi, il a osé demander d'envoyer une lettre pour que tout le monde lui donne gratuitement les matériaux. C'est osé, ça, n'est-ce pas? Mais avez-vous remarqué une chose? Quand nous sommes convaincus que nous faisons le plan de Dieu et que ce que nous faisons, c'est sa volonté, c'est sa vision, c'est pour sa gloire, on peut oser demander. Ce n'est pas égoïste de demander beaucoup de choses si c'est pour la gloire de Dieu. Et il y a des gens, vous avez besoin d'être guéri de votre gêne des fois, de demander même à Dieu. Oh, mais moi, j'avais une personne très chère à mon cœur, dans ma parenté, qui disait toujours, « Oh, mais moi, je n'ai pas besoin de grandes choses dans la vie, juste un petit peu, da-da-da-da. » Oui, mais on a, oui, si tu, ce que tu veux faire, c'est avoir une petite existence, et tu prends soin juste de toi-même, et tu ne fais pas autre chose, c'est correct. Mais si tu veux toucher beaucoup des gens, peut-être tu auras besoin de plus de ressources aussi. On peut oser demander quand c'est pour la gloire de Dieu. Et avez-vous remarqué, il a demandé tout cela pour la maison de Dieu, pour les murs, pour les portes, et en plus, pour la maison que je vais occuper. C'est correct, n'est-ce pas? C'est correct pour Néhémie d'avoir une maison aussi, n'est-ce pas? Mais avez-vous remarqué, il a mentionné les besoins du projet pour la gloire de Dieu, avant de mentionner son propre besoin, et voici qu'est-ce que je vois là-dedans. Matthieu 6, 33 qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Il savait, je suis ambassadeur de Dieu, je vais aller travailler pour Dieu, donc c'est tout à fait normal que moi aussi j'ai une maison, n'est-ce pas? C'est la même chose pour chacun de nous. Si vous vous occupez des affaires de votre Père va s'occuper de vos affaires. Vous aurez beaucoup moins de la difficulté à croire pour recevoir même la guérison pour votre corps physique quand vous réalisez que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu a besoin d'un corps qui est en santé pour prêcher, pour aller dans le monde, n'est-ce pas? Donc c'est facile de dire, Seigneur, merci pour la guérison. Tu as besoin d'un corps en santé sur la terre. J'ai beaucoup plus d'assurance pour demander quand je sais que mon corps sert pour la gloire de Dieu. Quand j'ai des besoins financiers, quand je sais que je suis ambassadeur pour Dieu, je suis sur la terre pour faire sa volonté, c'est facile à recevoir. Donc, osez demander. Amen. C'est pas égoïste de demander les choses pour la gloire de Dieu, et c'est même pas égoïste de demander pour vous-même aussi longtemps que vos priorités sont à la bonne place. Numéro 4, est-ce que vous recevez quelque chose ce matin? Numéro 4, prendre le temps de réfléchir et de te préparer. Des fois, on a une vision, on demande les choses, mais il y a quand même un équilibre ici. Ici, c'est un point important. On ne veut pas juste commencer à faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, on va tomber sur notre nez. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire, c'est de réfléchir, de dire, « OK, Seigneur, voici le plan, voici ce que tu veux que je fasse. » Je vais vous donner un exemple. En 89, le Seigneur a parlé à mon cœur à propos du Québec. Je suis jamais venu ici, je connaissais personne, mais le Seigneur surnaturellement a mis dans mon cœur le désir de prier pour le Québec et le peuple québécois. En 1990, je suis venu pour la première fois le mois de mai. Et dès que je suis arrivé là, j'avais le goût, j'étais enthousiaste, j'avais le cœur pour déménager tout de suite au Québec. Sauf que j'ai pris le temps de réfléchir et de penser et de prier, et le Seigneur a mis dans mon cœur, non, pas encore. Il faut premièrement aller passer une saison en France et aider Pasteur John et Laura en France. Donc, on est allé pendant 2 ans. On a travaillé avec eux. J'ai enseigné dans l'école biblique là-bas. On a développé une bonne relation avec eux. Donc, laisse-moi vous dire une chose. C'est une chance que je suis allé là-bas. C'est la grâce de Dieu parce que ça m'a aidé aussi à me préparer davantage pour qu'est-ce qu'on fait là. Donc, il y a quand même un temps de réflexion, des fois un temps de préparation. Le temps de préparation n'est jamais un temps gaspillé. J'avais de la misère avec ça quand je suis allé à Raymond pour étudier à l'école des blés. J'étais déjà en train de faire beaucoup de ministère à mon église à Saint-Louis. Je prêchais à toutes les semaines. J'avais un groupe de jeunes à ma maison, une trentaine de jeunes à chaque lundi soir. J'étais capitaine d'une équipe dans la prison. Je prêchais à chaque semaine dans les prisons. J'étais souvent invité à aller prêcher. J'avais juste 17, 18 ans. Mais le Seigneur a ouvert les portes. Donc, quand j'arrive à l'école biblique avec 2000 autres étudiants, là, je me suis dit, bon, mais moi aussi, je veux continuer à prêcher, faire des choses, mais j'avais plus de place pour faire les choses. Et j'étais frustré. J'ai pas le temps de gaspiller. Le Seigneur revient. Il revient. Le Seigneur revient. Et un jour, un de mes professeurs très sages, il se lève debout le matin et dit, bon, j'ai juste à cœur de dire ceci. Peut-être il y a quelqu'un ici ce matin qui dit dans ton cœur, mais ça fait déjà des années que tu es déjà impliqué dans le ministère, tu fais déjà beaucoup de choses et que c'est un gaspillage de ton temps d'être assis ici dans une classe ou quand tu pourrais être ailleurs en train de prêcher. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, juste n'oubliez une chose, en temps de préparation, c'est jamais un temps gaspillé. Il a dit que, imaginons, ça c'était en 1985, il a dit, on va juste imaginer que le Seigneur revient dans 3 ans. Il a dit, je suis convaincu que vous allez pouvoir faire plus dans 1 an, après avoir passé 2 ans à l'école biblique, que vous aurez pu faire dans 3 ans sans avoir fait l'école biblique. Alors, je dis, ça, Seigneur, c'est une parole pour moi. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent, on regarde qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, mais on ne veut pas prendre le temps de se préparer. Mais le temps de préparation, c'est jamais un temps gaspillé. Et on voit cela avec Néhémie. Néhémie 2, 11 dit, j'arrivais à Jérusalem, et j'y passais 3 jours. Donc, il arrive. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Vous savez, il avait la sagesse. Il n'a pas juste dit à tout le monde, « Hey, voici ce que je vais faire. » Il a pris le temps de réfléchir et de planifier. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant, soulignez le mot considérant, les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant, soulignez le mot réfléchissant, à ces portes consumées par le feu. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Il a pris l'initiative, mais il était quand même réfléchi. Il a pris le temps de se préparer. Amen. Numéro 5, n'essaie pas de travailler seul. Imagine un homme en train de bâtir les murs qui entourent toute la ville de Jérusalem. Est-ce qu'il aurait été capable de le faire tout seul? Jamais. Et je vous assure que le plan de Dieu pour votre vie, regardez-moi droit dans les yeux, la vision que Dieu a pour votre vie de rêve, c'est connecté aux autres membres du corps de Christ. Vous ne pouvez jamais accomplir le plan de Dieu pour votre vie sans être impliqué dans une église locale, sans être connecté avec les autres frères et sœurs dans le Seigneur. C'est pourquoi on le fait ensemble. Amen. Et regardons ceci. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons. Plutôt, quand il parlait avec le roi, il a dit, « Envoie-moi, je vais le rebâtir. » Mais ce n'était pas seul. « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Donc, vous aussi, regarde quelqu'un et dit, « J'ai besoin de toi. » Maintenant, regarde quelqu'un d'autre et dit, « Tu as besoin de moi. » Et puis, on va tous regarder en haut, on va dire, « Seigneur, nous avons besoin de toi. » Puis, numéro 6, lève-toi et bâtis avec une ferme résolution. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Laisse-moi vous dire, quand vous commencez à bâtir une vie de rêve, il ne faut pas lâcher. Ça prend toute une vie de bâtir une vie de rêve. Le succès, c'est pas une destination, c'est un voyage. Regarde quelqu'un d'autre et dis, le succès, c'est un voyage. Regarde quelqu'un d'autre et dis, c'est un long voyage. Mais le voyage est long, mais c'est agréable si, je peux pas dire toujours facile, mais on a un sentiment de succès. En fait, ça, c'est la 7e chose. Sache que Dieu te donnera le succès. Tu ne peux pas échouer quand tu fais ce que Dieu te demande à faire. Échouer, ce n'est pas une option pour ceux et celles qui suivent le plan de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Regardons le verset, dernier verset ce matin. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. On va le dire ensemble. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Gloire à Dieu. Si on peut avoir quelqu'un sur le clavier aujourd'hui, ça c'est pas pire. Il est midi pile et j'ai terminé. Mais nous n'avons pas terminé. Presque. Je vous invite pour les prochaines 2-3 minutes à rester tranquille. Parce que, et si c'est possible, juste bougez pas juste pour notre 2-3 minutes. Parce que qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prier ensemble. Mais en même temps, je suis conscient que la plupart de nous ici, nous connaissons déjà le Seigneur Jésus. Nous avons déjà donné notre vie à celui qui est l'architecte et le constructeur de notre vie de rêve. Et nous qui connaissons déjà Jésus, nous avons besoin de prendre ses paroles, la mettre en pratique et voir Dieu faire des choses merveilleuses. Mais il se peut qu'aujourd'hui, ce matin, il y a un homme, une femme, ou plusieurs, un enfant, un ado. Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui, quand vous entendez parler de construire une vie de rêve, vous n'avez même pas pris le premier pas. Le premier pas, c'est quoi? C'est de donner ta vie à celui qui est l'architecte de ta vie. C'est d'accepter que celui qui veut bâtir une vie de rêve, de lui donner la chance, de lui donner la permission de prendre le contrôle de ton cœur et de ta vie. Parce que sans ça, la Bible dit, on a commencé avec ce verset, si l'Éternel ne bâtit la maison, il travaille en vain. Donc, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux même. Je veux que vous sachiez juste plusieurs choses. Premièrement, je veux que vous sachiez que Dieu vous aime, mais que tes péchés sont séparés d'avec Dieu. Tout le monde, sans exception, la Bible dit, Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu, nos péchés nous ont séparés d'avec Dieu. Regardons, il y a une image de cela. C'est comme nous qui sommes infectés par le péché, on veut se rejoindre à Dieu qui est saint et parfait, mais on ne peut pas parce qu'il y a une séparation entre nous. Mais regardons le prochain diapo, seulement Jésus peut te sauver. Moi, je ne peux pas sauter, l'espace est trop grand, je vais sûrement tomber. Personne sur la planète. Vous dites, mais moi, je suis gentil, je fais des bonnes choses, je lis la Bible, je vais à l'église. Toutes ces choses ne sont pas assez pour nous ramener à Dieu. Seulement Jésus peut te sauver, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un don gratuit qu'on ne peut pas mériter. Regardons l'image. Jésus est le seul chemin pour ramener l'homme à Dieu. Quand Jésus est mort, il était 100% Dieu et 100% homme. Et c'est lui qui fait le pont entre nous et Dieu. Et si c'est pas assez de dire, bon, je crois en Jésus, et on reste de ce côté de la croix. Non, il faut prendre une décision. Je vais traverser le pont par la foi. Je vais croire que Jésus est mon sauveur, mon maître. Je vais donner ma vie à lui. Regardons le prochain. Il faut recevoir personnellement le don de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Regardons encore la question qui se pose ce matin. Où êtes-vous? Vous voulez construire une vie de rêve, mais vous ne pouvez pas commencer aussi longtemps que vous n'êtes pas du bon côté de la croix. Si vous quittez l'église aujourd'hui, regardez-moi dans les yeux juste une minute. Si en quittant l'église aujourd'hui, votre cœur arrête de battre, savez-vous sans aucun doute que vous êtes déjà traversé le pont et que vous allez passer l'éternité avec le Seigneur au ciel. Si vous avez le moindre doute aujourd'hui, je vais vous donner l'occasion dans une minute de donner votre vie à Jésus, de traverser le pont. Je ne vous invite pas forcément à devenir membre de cette église, mais je vous invite à devenir enfant de Dieu. Peu importe la confession, l'église locale, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir Jésus dans le cœur et d'avoir traversé le pont par la foi. Regardons une prochaine chose. Numéro 1, accepte que tu ne peux pas te sauver toi-même. Le verset ici dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose, tourne-toi vers Dieu. Si tu vis ta propre vie égoïste maintenant, c'est la journée de revenir à Dieu. Change la direction de ta vie. Regardons le verset. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Troisième chose que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est de confesser avec ta bouche que le Seigneur Jésus est ton Seigneur. Savez-vous c'est quoi un Seigneur? C'est un maître, un patron, celui qui est le boss. En croyant dans ton cœur qu'elle est ressuscitée. Regardons ce verset. Si tu confesses, grand-maman ne peut pas le faire pour toi, ta mère ne peut pas le faire pour toi, ton ami ne peut pas le faire pour toi, ton épouse ne peut pas le faire, ton mari ne peut pas le faire, ton frère ne peut pas le faire. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et finalement, sois prêt à professer Jésus devant les autres. Jésus a dit, c'est Jésus qui parle, regardons ceci. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le reniera aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Moi, je n'ai pas honte de Jésus. Et ce matin, je vous donne l'occasion, si vous êtes ici et vous n'êtes pas sûr que vous avez traversé ce pont, vous n'avez pas l'assurance dans votre cœur, pensez pas à ce que les autres vont dire, pensez à ce que Jésus va dire. Je veux confesser Jésus devant les autres. Et maintenant, si vous êtes là, vous dites, moi, je crois que j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. C'est pas assez d'aller à l'église, comme je dis, à tous les dimanches. Si tu vas chez McDo et tu restes la nuit, tu vas pas devenir un hamburger. Si tu vas à l'église, à tous les dimanches, tu vas pas devenir un chrétien non plus, sans donner ta vie au Seigneur Jésus. Donc maintenant, je vous donne tout simplement l'occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, quand je tape ma main, lève ta main, haut dans l'air, dis, oui, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut traverser le pont, donner leur vie à Jésus? Hein? 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Tu veux confesser Jésus devant les hommes. Il y a quelqu'un qui a levé la main, tu dis? Oui, amen. Il y a deux personnes ici. Il y a quelqu'un d'autre? Peut-être que tu as besoin de revenir à Jésus aussi. Tu as déjà donné ta vie dans le passé. Tu as besoin de revenir à lui. Juste lève ta main aussi dans l'air. Sinon, je vais inviter ces deux hommes à venir. Je vais prier avec vous. Pourquoi je demande ça? Parce que Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Donc, venez ici. Je vais prier avec toi. Juste, ne sois pas gêné. Vous deux. Alléluia. Ça valait le pain, n'est-ce pas, de prendre 5 minutes de plus. Parce que la Bible dit que si un pécheur se répand, tous les anges des cieux se réjouissent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de se rejoindre à eux? Alléluia. Alléluia. On va faire cette prière ensemble. Priez avec moi. Père Céleste, je viens à toi. Au nom de Jésus. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon sauveur et mon maître. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour lui. Je n'ai pas honte de Jésus. Et je sais que tu n'as pas honte de moi. Je suis ton enfant. Et je vais vivre pour toi. Pour éternité. Mes péchés sont effacés. L'œuvre de l'ennemi est brisée et écrasée dans ma vie. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Et je suis dans la joie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour eux? Ton père, pour toi. Ton nom, c'est? Gilles. C'est Joël. Mais savez-vous quoi? Juste restez ici parce qu'on a un don qu'on veut vous offrir. Claude est ici. On est juste en arrière de cette porte, on a une Bible flambe à neuf qu'on veut vous offrir, une belle Bible dans la version parole du Seigneur. Et on veut vous offrir ça. Ils vont répondre à vos questions, prier avec vous. Donc, si vous voulez juste le suivre, juste pour deux minutes. Et on va remercier le Seigneur encore pour Gilles et pour Joël ce matin. Je vous aime. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'avoir pris le temps ce matin de rester, de prier avec nous. Ça, c'est une œuvre de toute l'Église, vous savez. Quand ces hommes viennent au Seigneur, c'est pas moi en tant que pasteur qui les amène, c'est le Saint-Esprit, premièrement, mais c'est une œuvre de tout le corps de Christ. Amen. Que c'est merveilleux. Donc, on va faire un dernier chant.